Livre 16, chapitre 2. Étrange aventure qui arrive à M. Weston. Malheureuse situation de sa fille. Il faut que nous conduisions maintenant le lecteur au logement de M. Weston dans Piccadilly. Il l'avait obtenu à la recommandation du maître de l'hôtel des colonnes d'Hercule à Hyde Park Corner, car il avait placé ses chevaux dans la première auberge qu'il avait trouvée en arrivant à Londres, et s'était placé lui-même dans ce logement, le premier qui se fût offert à lui. Dès que Sophie fut descendue de la voiture de place qu'il avait amenée de la maison de Lady Ballaston, elle demanda à se retirer dans l'appartement qui lui était destiné. Son père y consentit très volontiers et l'y accompagna lui-même. Ils eurent alors ensemble une conversation peu importante et peu agréable à rapporter en détail, dans laquelle il la pressa vivement de consentir à son mariage avec Blifil, qui, lui dit-il, devait être à Londres dans peu de jours. Mais elle lui répondit par le refus le plus absolu et le plus positif, ce qui irrita tellement son père qu'après avoir juré à plusieurs reprises de la manière la plus effroyable qu'il la forcerait de l'épouser de gré ou de force, il la quitta en l'accablant de grosses injures et de malédictions, ferma la porte et en mit la clé dans sa poche. Tandis que Sophie n'avait pas d'autre compagnie que celle qu'on ne refuse pas même aux prisonniers d'État le plus étroitement gardé, c'est-à-dire du feu et de la chandelle, M. Weston alla se régaler d'une bouteille de vin avec son curé et le maître de l'hôtel des colonnes d'Hercule, qui, suivant lui, ferait un excellent tiers et pourrait l'informer tant des nouvelles de la ville que de l'état des affaires en général. Car sans doute, disait-il, il doit savoir beaucoup de choses puisque les chevaux de beaucoup de gens de qualité sont logés chez lui. M. Weston employa dans cette agréable société la soirée entière et une grande partie du jour suivant, sans qu'il se passât rien d'assez important pour trouver place dans cette histoire. Sophie resta seule pendant tout ce temps, car son père avait juré qu'elle ne sortirait pas vivante de sa chambre, à moins qu'elle n'eût préalablement consenti à épouser Blifil. Il avait de plus défendu qu'on ouvrît sa porte, excepté pour lui porter à manger. Et alors il était toujours présent. Le surlendemain de son arrivée, tandis qu'il était à déjeuner avec son curé, on vint lui dire qu'un gentilhomme était en bas et demandait à le voir. « Un gentilhomme ? » s'écria-t-il. « Qui diable peut-il être ? Allez, docteur, descendez et voyez qui c'est. Monsieur Blifil ne peut pas encore être arrivé. Descendez, je vous prie, et sachez ce qu'il me veut. » Le docteur revint lui dire que c'était un homme très bien mis et qu'à la cocarde qu'il avait à son chapeau, il le croyait un officier. Qu'il disait avoir quelque affaire particulière qu'il ne pouvait confier qu'à M. Weston lui-même. Un officier? Qu'est-ce qu'un officier peut avoir à faire à moi? S'il a besoin d'une voiture pour les bagages de l'armée, je ne suis pas juge de paix ici, et je ne peux lui en donner l'ordre. Enfin, qu'on le laisse monter puisqu'il est nécessaire qu'il me parle. Un homme qui avait fort bon air entra en ce moment, et après avoir fait les compliments d'usage à M. Weston, et lui avoir demandé la permission d'être seul avec lui, lui parla en ces termes. « Monsieur, je viens vous voir par l'ordre de Milord Fellamar, mais je suis chargé envers vous d'un message très différent de celui que vous attendiez de lui, je suppose, après ce qui s'est passé l'autre soir. Milord qui ? Je n'ai jamais entendu prononcer ce nom-là. Milord veut bien imputer aux effets du vin tout ce qui s'est passé, et le plus simple aveu que vous en ferez réparera tout. » Car, attendu qu'il aime passionnément votre fille, vous êtes, monsieur, la dernière personne sur la terre envers laquelle il voudrait avoir à venger un affront. Il est également heureux pour l'un et pour l'autre qu'il ait donné publiquement des preuves de courage telles qu'il lui soit permis de terminer une affaire de cette nature sans courir le danger de compromettre son honneur. Tout ce qu'il désire donc est que vous vouliez bien vous rétracter devant moi. Le moindre mot suffira, et il a le projet de venir cet après-midi vous présenter ses respects pour obtenir de vous la permission de rendre visite à la jeune personne en qualité d'amant. Je n'entends pas beaucoup ce que vous dites, monsieur, mais par ce qui a rapport à ma fille, je suppose que c'est ce lord dont ma cousine Lady Ballaston m'a parlé. Elle m'a dit en effet quelque chose sur ce qu'il faisait sa cour à ma fille. Si cela est, vous pouvez dire à Milord que je suis tout à son service, mais que j'ai disposé de ma fille. Peut-être, monsieur, n'êtes-vous pas suffisamment instruit de l'importance de cette proposition. Je crois qu'une personne comme lui, un titre aussi brillant et une fortune aussi considérable, ne serait refusée dans aucune famille. Je vous l'ai dit, monsieur, ma fille est déjà accordée. Mais à vous parler franchement, quand elle ne le serait pas, pour rien au monde, je ne la marierais à un lord. Je hais tous les lords, c'est un tas de courtisans et d'anovriens, et je ne veux rien avoir à démêler avec eux. Eh bien, monsieur, si c'est là votre résolution, voici la mission dont je suis chargé vers vous. Milord désire que vous vouliez bien accepter le rendez-vous qu'il vous donne pour ce matin à Hyde Park. Vous pouvez dire à Milord que j'ai affaire et que je ne peux pas m'y trouver. Je suis assez occupé à veiller sur ce qui se passe à la maison, et je ne peux sortir pour quelque motif que ce soit. Assurément, monsieur, vous êtes trop bien né pour vouloir que je me charge d'un pareil message. Vous ne voudriez pas, j'en suis convaincu, qu'on pût dire de vous qu'après avoir insulté un des pairs les plus distingués d'Angleterre, vous lui ayez refusé satisfaction. Milord aurait voulu, par égard pour la jeune personne, que l'affaire eût pu s'arranger d'une autre manière. Mais à moins qu'il ne doive vous regarder comme un père, il ne souffrira pas l'indigne traitement dont vous devez vous souvenir que vous l'avez menacé. Moi, je l'ai menacé, c'est un mensonge infernal. Je ne l'ai menacé de rien. À ces mots, l'officier répondit par une très courte remontrance verbale, qu'il accompagna en même temps d'une remontrance manuelle qui ne fut pas plutôt parvenue aux oreilles de M. Weston, qu'il se mit à sauter très lestement autour de la chambre, en criant de toutes les forces de ses poumons, comme s'il eût voulu rassembler un plus grand nombre de spectateurs pour être témoin de son agilité. Le curé, qui avait laissé la plus grande partie de la bouteille encore pleine, ne s'était pas beaucoup éloigné. Il accourut donc aussitôt au cri de M. Weston, en s'écriant lui-même « Bonté divine, monsieur, qu'avez-vous donc ?»« Ce que j'ai, voilà, je crois, un voleur de grand chemin qui veut me voler et m'assassiner, car il est tombé sur moi avec cette canne qu'il a à la main, lorsque je veux être damné si je l'ai provoqué le moins du monde. »« Comment, monsieur ?» dit le capitaine. « Ne m'avez-vous pas dit que je mentais ?»« Non, » répondit Weston, « non sur le salut de mon âme. Je crois bien que j'ai pu dire que c'était un mensonge que j'eusse menacé Milord, mais je n'ai jamais dit le mot « vous mentez ». Je me respecte trop, et si vous vous étiez respecté vous-même davantage, vous ne seriez pas ainsi tombé sur un homme sans défense. Si j'avais eu une canne à la main, vous n'auriez pas osé me frapper. Je t'aurais brisé la mâchoire et donné sur les oreilles. Descends avec moi dans la cour, viens essayer qui des deux aura la tête cassée le premier d'un coup de bâton, ou bien qui recevra un bon coup de poing dans le ventre. Mais tu n'es pas un homme, pas même la moitié d'un homme, j'en suis sûr. » Le capitaine répliqua avec indignation, « Je vois, monsieur, que vous êtes indigne de ma colère, et j'informerai Milord que vous êtes indigne de la sienne. Je suis fâché de m'être sali les mains en les portant sur vous. » Après avoir dit ces derniers mots, il se retira. Le ministre se mit au-devant de M. Weston pour l'empêcher de l'arrêter, ce à quoi il réussit sans peine. Weston, malgré les efforts qu'il semblait faire pour poursuivre le capitaine, ne paraissant pas désirer très vivement d'exécuter cet acte de violence. Cependant, le capitaine ne fut pas plutôt sorti que Weston le chargea de malédictions et de menaces. Mais, attendu qu'elles ne sortirent pas de sa bouche, avant que le capitaine fût parvenu au bas de l'escalier, et que ses vociférations ne devinrent de plus en plus fortes qu'à mesure que le capitaine s'éloignait de plus en plus, elles n'atteignirent pas ses oreilles, ou au moins ne retardèrent pas sa marche. Cependant, la pauvre Sophie, qui du fond de sa prison avait entendu les cris de son père, frappa de toutes ses forces avec son pied, et se mit ensuite à crier aussi haut que son père lui-même, quoique d'une voix beaucoup plus douce. Ses cris firent bientôt cesser ceux de M. Weston et lui firent tout oublier pour ne plus penser qu'à sa fille, qu'il aimait si tendrement que la moindre crainte qu'il lui fût arrivé le mal le plus léger lui faisait la plus terrible impression. Car, hors cette seule circonstance, où il s'agissait du bonheur futur de sa vie entière, elle avait tout pouvoir sur lui. Après avoir épuisé toute sa rage contre le capitaine, et juré qu'il l'appellerait en justice, Weston monta à l'appartement de Sophie, où il la trouva pâle et sans respiration. Cependant, aussitôt qu'elle vit son père, Elle rassembla toutes ses forces et, lui saisissant la main, s'écria avec transport « Oh, mon père, je suis presque mourante de frayeur. Au nom du ciel, j'espère qu'il ne vous est arrivé aucun mal. » « Non, non, pas grand mal. Le scélérat ne m'a pas fait beaucoup de mal. Mais que le diable m'emporte si je ne le poursuis pas en justice. Dites-moi, je vous prie, mon père, de quoi s'agit-il? Quel est celui qui vous a insulté ?»« Je ne sais pas son nom. C'est, je suppose, quelqu'un de ses officiers qu'il nous faut payer pour nous battre. Je lui ferai payer ce coup si le scélérat a quelque chose. Mais je crains fort qu'il n'ait rien. Car, quoiqu'il fût fort bien vêtu, je parierais qu'il n'a pas un pouce de terre dans le monde. Mais, mon père, quelle était la cause de votre querelle? Pourrait-il y en avoir d'autres que vous, Sophie? Tous mes malheurs viennent de vous. Vous finirez par causer la mort de votre pauvre père. Ne voilà-t-il pas le valet d'un lord, et Dieu sait quel lord, qui, parce que son maître a du goût pour vous, et que je ne puis lui donner mon consentement, m'apporte un cartel de sa part? Allons, soyez une bonne fille, Sophie, et terminez les chagrins de votre père. Allons, consentez à l'épouser. Il sera à Londres aujourd'hui ou demain. Promettez-moi seulement de l'épouser à son arrivée, et vous me rendrez l'homme le plus heureux du monde, et je vous rendrai la femme la plus heureuse. Vous aurez les plus beaux habits qui soient dans Londres, les plus riches joyaux, et un carrosse à 6 chevaux à vos ordres. J'ai promis à Allworthy de donner la moitié de mon bien. Le diable m'emporte, je ne ferai presque aucune difficulté de donner le tout. Mon papa sera-t-il assez bon pour m'entendre un moment? Tu me le demandes, Sophie, quand tu sais que j'aime mieux entendre ta voix que le concert de la meilleure meute de chiens de toute l'Angleterre. T'entendre, ma chère petite, j'espère que je pourrai t'entendre aussi longtemps que je vivrai. Car si je devais jamais perdre ce plaisir, je ne donnerais pas un denier pour vivre un moment de plus. Assurément, Sophie, vous ne savez pas à quel point je vous aime, en vérité. Vous ne le savez pas, ou vous ne vous seriez jamais enfui. Vous n'auriez pas abandonné votre pauvre père, qui n'a d'autre joie, d'autre consolation sur la terre que sa petite Sophie. » À ces mots, des pleurs roulaient dans ses yeux et ruisselaient abondamment de ceux de sa fille, qui lui répondit « Ah, mon cher papa, je sais que vous m'avez toujours tendrement aimé, et le ciel m'est témoin de mon amour pour vous. Il n'y a que la crainte d'être forcé d'épouser cet homme qui a pu m'entraîner à fuir un père que j'aime si passionnément que je sacrifierai avec plaisir ma vie à son bonheur. Je dirai plus, j'ai fait tous mes efforts pour obtenir de ma raison un plus grand sacrifice encore, et j'avais presque pris la résolution de supporter la vie la plus misérable pour contenter vos désirs. Mais je n'ai pas eu la force de l'exécuter, et je ne le pourrai jamais. » Ici, Weston prit un regard farouche et commença à écumer de rage. Sophie, l'ayant observé, demanda à être encore entendue, et continua ainsi, « S'il s'agissait de la vie, de la santé ou du bonheur réel de mon père, votre fille entièrement dévouée est ici devant vos yeux, puisse le ciel m'écraser à l'instant s'il est un genre de malheur que je ne consentisse à souffrir pour vous sauver. Non, cet état que j'aborde, cet état qui me fait horreur, je l'embrasserai à l'instant, je donnerai ma main à Blifil pour l'amour de vous. Je te dis que cela me sauvera, cela me donnera la santé, le bonheur, la vie, tout. Sur mon âme, je mourrai si tu me refuses. Tu briseras mon cœur sur mon âme, tu le briseras. Est-il possible que vous puissiez avoir un tel désir de me rendre malheureuse? Je te dis que non. Le diable m'emporte s'il n'y a rien sur la terre que je ne fisse pour te voir heureuse. Et mon cher papa, ne conviendra-t-il pas que je dois avoir la connaissance de ce qui peut me rendre heureuse? S'il est vrai que le bonheur consiste dans l'opinion, quelle sera infailliblement ma condition quand je me croirai la plus malheureuse de toutes les femmes? Il vaut mieux que vous croyiez l'être et ne pas l'être en effet, en épousant un misérable bâtard, un vagabond. Si cela peut vous satisfaire, je vous ferai la promesse la plus solennelle de ne jamais l'épouser, ni lui, ni tout autre, sans votre consentement. Permettez-moi de vous consacrer ma vie entière. Souffrez que je sois encore votre chère Sophie, et toute mon occupation, tout mon plaisir, sera, comme par le passé, de vous plaire et de vous amuser. Tenez, Sophie, je ne suis pas fait pour être ainsi dupe. Votre tante Weston aurait alors raison de me prendre pour un imbécile, comme elle le fait tous les jours. Non, non, Sophie, il faut que vous sachiez que je suis plus sensé que cela, et que je connais trop le monde pour m'en rapporter à la parole d'une femme dans une affaire où l'homme qu'elle aime a un intérêt contraire. Comment ai-je mérité ce manque de confiance? Ai-je trahi une seule de mes promesses envers vous, depuis que je suis né? M'a-t-on jamais trouvé coupable d'un seul mensonge? Voyez-vous, Sophie, il ne s'agit ni de ceci, ni de cela. Je suis déterminée à ce mariage. Vous l'épouserez, le diable m'emporte si vous ne l'épousez pas. Le diable m'emporte si tu ne l'épouses pas, quand tu devrais te pendre le lendemain matin. » En répétant ces mots, il ferma le poing, fronça le sourcil, mordit ses lèvres et jeta de tels cris que la pauvre Sophie, affligée, effrayée, se laissa aller toute tremblante sur sa chaise. Et si un torrent de larmes ne fût venu sur le champ à son secours, il s'en serait peut-être suivi quelque chose de plus funeste. Weston vit la déplorable situation de sa fille sans plus de regret ni de remords que le porte-clés de Newgate n'en éprouve en voyant le désespoir d'une femme sensible au moment où elle fait ses derniers adieux à son mari qui vient être condamné. Ou plutôt, il la regardait avec la même émotion qui s'empare d'un honnête marchand quand il voit son débiteur traîner en prison pour 10 livres que, bien que légitimement dû, le malheureux est absolument hors d'état de lui payer. Ou pour rendre la comparaison encore plus juste, il ressentit la même compassion que ressent une entremetteuse quand quelque pauvre innocente qu'elle a prise dans ses filets tombe en convulsion à la première proposition qu'elle lui fait de ce qu'on appelle « voir de la compagnie ». Cette comparaison serait en effet très juste si ce n'était que l'entremetteuse a un intérêt à faire ce qu'elle fait, et que le père, quoiqu'il soit peut-être assez aveugle pour penser autrement, n'en veut réellement avoir aucun à pousser sa fille à une prostitution à peu près semblable. Il laissa la pauvre Sophie dans cette situation, et quittant la chambre en faisant une observation extrêmement triviale sur l'effet des larmes, il ferma la porte et vint rejoindre le curé, qui lui dit tout ce qu'il osa en faveur de la jeune personne. Quoi qu'il en dît peut-être beaucoup moins que son devoir ne l'exigeait, cela suffit pour jeter M. Weston dans une violente fureur, et lui faire faire des réflexions les plus indécentes sur le corps entier du clergé, réflexions que notre très grand respect pour les fonctions sacrées qu'il remplit nous oblige de taire. Chapitre 3. Ce qui arriva à Sophie pendant son emprisonnement. La maîtresse de la maison où logeait M. Weston avait conçu de très bonne heure une étrange opinion de ses hôtes. Cependant, comme elle était instruite que c'était un homme d'une fortune immense, et comme elle avait eu soin de mettre un prix excessif à ses appartements, elle crut à propos de ne pas faire de bruit. Quoiqu'elle ne vît pas sans quelque peine l'emprisonnement de la pauvre Sophie, de la grande douceur et de l'affabilité de laquelle la servante de la maison lui avait fait un rapport très favorable, qui lui avait encore été confirmé par les domestiques de M. Weston, elle était trop fortement attachée à son propre intérêt pour provoquer un homme qu'elle avait tout lieu de croire d'un caractère très violent. Quoique Sophie mangeât peu, ses repas lui étaient servis très régulièrement. Je crois même que si elle avait voulu manger quelque chose de rare, M. Weston, malgré sa colère, n'aurait épargné ni soins ni dépenses pour le lui procurer. Car quelque étrange que cela puisse paraître à quelques-uns de mes lecteurs, il aimait réellement sa fille jusqu'à l'idolâtrie. Et lui procurer toute espèce de plaisir était le plus grand bonheur de sa vie. L'heure du dîner arrivée, Black George monta un poulet à Sophie. Weston lui-même l'accompagna jusqu'à la porte, car il avait juré de n'en pas confier la clé. George, en posant le plat sur la table, présenta ses respects à Sophie, qui lui répondit quelque chose d'obligeant. Il faut observer qu'il ne l'avait pas vue depuis qu'elle avait quitté la maison de son père, et qu'elle traitait tous les domestiques avec plus d'égard que quelques personnes n'en montrent à ceux qui sont à peine leurs inférieurs. Sophie voulait l'engager à redescendre le poulet, disant qu'elle ne pouvait manger. Mais George la pria d'essayer et lui recommanda particulièrement les œufs dont il lui dit que le poulet était rempli. Pendant tout ce temps, M. Weston attendait à la porte. Mais George, étant très aimé de son maître, parce qu'il était employé par lui dans des affaires de la plus haute importance, notamment dans tout ce qui était relatif à la chasse, se permettait en raison de cela de prendre quelques libertés. Il s'était chargé avec plaisir de monter le dîner, désirant beaucoup, dit-il, voir sa jeune maîtresse. Il ne se fit donc aucun scrupule de laisser attendre son maître plus de 10 minutes, pendant que Sophie et lui se faisaient les politesses. M. Weston se contenta de le gronder en riant à son retour. George savait très bien que les œufs de poulette, de perdrix ou de faisan étaient le mets favori de Sophie. Il ne faut donc pas s'étonner que lui, qui était un très bon garçon, eut pris soin de lui procurer cette sorte de délicatesse quand tous les domestiques de la maison craignaient qu'elle ne se laissât mourir de faim, car elle avait à peine mangé un morceau depuis près de 48 heures. Quoique l'affliction ne produise pas sur toutes les personnes le même effet qu'elle produit communément sur une veuve dont elle rend souvent l'appétit plus vif que ne le ferait l'air de Banstead Downs ou de Salisbury Plain, le chagrin le plus violent, quoi qu'en puissent dire quelques personnes, finit toujours par manger. Et Sophie elle-même, après quelques petites réflexions, se mit à couper le poulet qu'elle trouva rempli d'œufs, comme George le lui avait assuré. Mais quelque plaisir que ce poulet lui procura, il contenait quelque chose qui aurait fait encore beaucoup plus de plaisir à la société royale. Car si un poulet à trois pattes est une curiosité si inestimable, quand le temps en a peut-être produit 1 millier de semblables, quel prix mettrons-nous à un oiseau qui contredit toutes les lois de l'économie animale au point de contenir une lettre dans son estomac? Ovide nous parle de la fleur dans laquelle Hyacinthe fut métamorphosée, qui porte des lettres sur ses feuilles, et que Virgile a recommandé comme un miracle à la société royale de son temps. Mais nul siècle, nulle nation ne peut se vanter d'avoir vu un oiseau avec une lettre dans l'estomac. Quoiqu'un miracle de cette nature eût pu engager toutes les académies des sciences de l'Europe dans des recherches peut-être infructueuses, le lecteur, en se rappelant simplement le dernier dialogue qui a eu lieu entre Messieurs Jones et Partridge, reconnaîtra très facilement d'où venait cette lettre et comment elle avait trouvé le moyen de passer dans le poulet. Sophie, malgré son long jeûne, et quoique son plat favori fût là devant elle, ne vit pas plutôt la lettre qu'elle la saisit, la déchira en l'ouvrant, et lut ce qui suit. « Madame, si je ne sentais parfaitement à qui j'ai l'honneur d'écrire, je tâcherais, quelque difficile que cela pût être, de peindre toute l'horreur de ma situation à la nouvelle qui m'a été apportée par Mrs. Honora. Mais comme la sensibilité seule peut avoir une juste idée des tourments que la sensibilité peut souffrir, cette aimable qualité que ma Sophie possède dans le plus éminent degré suffira pour l'instruire de ce que je dois avoir souffert dans cette triste occasion. Est-il une circonstance au monde qui puisse aggraver mes peines plus que celle de vous savoir infortuné? Il n'y en a qu'une, peut-être, et je suis assez maudit du ciel pour qu'elle arrive. C'est, ma Sophie, l'horrible idée que j'en suis la malheureuse cause. Peut-être me fais-je ici trop d'honneur, mais personne ne m'enviera un honneur qui me coûte si cher. Pardonnez-moi cette présomption, pardonnez-moi une plus grande encore, lorsque je vous demande si mes conseils, mes secours, ma présence, mon absence, ma mort ou mes tourments peuvent vous être d'aucune utilité. Si l'admiration la plus parfaite, les soins les plus vigilants, l'amour le plus ardent, l'intérêt le plus tendre, la soumission, la résignation la plus absolue à votre volonté peuvent vous être un dédommagement de tout ce que vous allez sacrifier à mon bonheur. En ce cas, volez, mon cher ange, dans ces bras qui sont toujours ouverts pour vous recevoir et vous protéger. Volez-y, et soit que vous ne m'apportiez que vous seul, soit que vous m'apportiez avec vous toutes les richesses du monde, cette alternative, à mes yeux, n'est pas même digne de considération. Si au contraire la sagesse l'emporte, et après de plus mûres réflexions vous dit que le sacrifice est trop grand, s'il n'y a d'autre moyen de vous réconcilier avec votre père et de rétablir la paix dans votre âme qu'en m'abandonnant, je vous conjure de me chasser pour jamais de votre pensée, de vous servir de tout votre courage, et de ne pas permettre que la plus légère pitié pour mes souffrances soit d'aucun poids dans votre cœur sensible. Croyez-moi, madame, je vous aime tellement plus que moi-même que mon but principal, mon unique but, est votre bonheur. Mon premier vœu, et pourquoi la fortune ne l'exaucerait-elle pas, mon premier vœu fut, et pardonnez-moi de vous le dire, est encore de vous voir à chaque instant de ma vie la plus heureuse des femmes. Mon second est d'apprendre que vous l'êtes. Mais aucun malheur sur la terre ne pourra égaler le mien, tant que j'aurai la pensée que vous devez un seul moment de peine à celui qui est, madame, dans tous les sens et sous tous les rapports, votre dévoué Thomas Jones. Ce que Sophie dit, fit ou pensa de cette lettre, combien de fois elle l'a lue, ou si elle l'a lue plus d'une fois, c'est ce que nous laisserons entièrement à l'imagination du lecteur. Peut-être en verra-t-il la réponse par la suite. Mais non en ce moment, car elle n'en fit pas alors. Et cela pour plusieurs bonnes raisons, dont l'une était qu'elle n'avait ni papier, ni plume, ni encre. Le soir, tandis que Sophie réfléchissait sur la lettre qu'elle avait reçue, ou sur quelque autre chose, un bruit violent qui se fit entendre dans l'appartement au-dessous vint troubler ses méditations. Ce bruit n'était autre qu'une vive altercation entre deux personnes. Elle distingua sur le champ, à la voix, que son père était un des disputants. Mais elle ne reconnut pas aussi facilement d'autres cris non moins aigus sortant des poumons de sa tante Weston, qui arrivait dans l'instant même à Londres, et qui, ayant appris où logeait son frère, par un de ces gens qui s'étaient arrêtés aux colonnes d'Hercule, s'était fait conduire sur le champ à sa demeure. Nous allons donc pour le présent prendre congé de Sophie, et suivant notre politesse ordinaire, nous rendre auprès de Mrs. Weston.